Bonjour, donc c'est le cercle de lecture de Confluence. Aujourd'hui, nous débattrons du livre d'Antonio Moresco, La Petite Lumière, que Monique va vous présenter.
Cet auteur italien a écrit un livre très très particulier et je dois dire que j'en ai rencontré assez peu dans ma vie de lectrice, des livres qui m'aient autant interrogée. Et alors, donc, j'ai écouté ce que disait Moresco de son livre, comme j'ai la chance de comprendre l'italien. Et il a avoué des choses qui peuvent aider à comprendre ce livre. Il dit et il a écrit qu'il s'agissait, ce livre, La Petite Lumière, d'un livre intime, très personnel et secret. Et il était tellement secret qu'il n'a pas voulu l'expédier tel que à son éditeur, qui pourtant était son ami, sans que ce livre soit accompagné et défendu. Alors, il a écrit donc à son éditeur, et il lui a demandé de le protéger, de le défendre, parce qu'il a dit « Parfois, il faut faire le noir autour de soi et en soi. Il faut faire le silence pour entendre ce qu'on ne pourrait voir ni entendre dans le vacarme étourdissant de notre époque. » Et cette petite introduction éclaire aussi la première phrase ou l'incipit de ce livre où il dit « Je suis venu ici pour disparaître dans un hameau abandonné et désert dont je suis le seul habitant. » Donc c'est un livre qui va parler donc d'une solitude, un thème que nous avions déjà abordé avec le livre précédent, et curieusement il y a beaucoup de points communs tout en se rendant compte que c'est le livre de Morandi qui s'appelait « La neige, le chien, le pied
enfin, ». Le chien, la neige, un pied.
Mais ça n'a aucune ressemblance, bien qu'il y ait des points de convergence étonnants. Donc, pour vous raconter ce livre, c'est un homme dont on ne sait pas d'où il vient, ni pour quelle raison il vient atterrir ou disparaître. D'ailleurs, il faut remarquer qu'il n'a pas dit mourir, il a dit écrit disparaître, ce qui est très, très différent de mourir. Sûrement pour échapper à la vie moderne, le brouhaha, où justement on ne peut plus se retrouver en soi, d'où la nécessité de retrouver le silence, l'obscurité, pour voir en soi-même plus profondément. Donc il va s'agir d'un livre plein de questionnements philosophiques, métaphysiques, sur la position de l'homme dans la société dans laquelle on va vivre. Donc il est seul dans ce hameau. On ne sait pas trop ce qu'il fait de ses journées. Il travaille sûrement, il coupe du bois, il lave son linge. C'est un livre où la propreté règne en absolu. Il est toujours en train de faire la lessive et de laver ses assiettes.
Et de nettoyer son four.
Et de nettoyer la surface de sa cuisinière et son four. C'est un homme très propre, contrairement à l'autre personnage du livre précédent qui vivait dans la crasse. Bien. Et il est intrigué, bon, il a beaucoup de temps, le soir il s'assoit sur une chaise, il habite sur un versant d'une montagne, c'est pareil, il y a une gorge, et sur le versant d'en face, il y a des forêts, il n'y a rien, enfin il y a une forêt vraiment presque impénétrable, mais le soir, il voit toujours une petite lumière qui s'allume, et ça l'intrigue. Ça l'intrigue tellement qu'un jour, il décide d'y aller. Mais il interroge les gens du village où il descend une fois par semaine, en automobile. Il a quand même une automobile, il n'a pas renoncé à toutes les commodités de la vie actuelle. Et il demande si on sait ce qui se passe de l'autre côté de cette colline, la lumière. On lui dit non. Et il rencontre un jour, on lui dit « mais allez voir ». Un homme qui étudie les extraterrestres, peut-être lui saura vous dire d'où provient cette lumière. Alors là, il y a une scène absolument époustouflante où il débarque, il voit effectivement un type qui n'arrive pas à parler français, qui est sale, hein, et qui, dans son étable, il soulève une couverture, il a un ordinateur super. Et là, il se met à parler d'une façon formidable en italien, et il raconte tous les points lumineux où on aurait atterri les extraterrestres. Et il prétend qu'en face, ça doit être une lumière d'extraterrestre.
Une nouvelle manifestation.
Alors là, je ne vous raconte pas ce que raconte ce personnage un peu particulier, l'italien. Donc, finalement, il interroge les gens du village. Il décide d'aller à la rencontre, enfin, de pénétrer, de trouver la route qui le mènera à cette petite lumière. Oui.
Oui. Non, et alors, à partir de là, on va entrer dans le mystère. pour vous introduire à ce mystère, on a choisi de vous faire écouter un extrait de l'Adagio du concerto numéro 23 de Mozart, interprété par Hélène Grimaud.
Avant d'entrer plus au profond de ce livre, plus près de ce livre, je pense qu'il est utile de vous présenter cet auteur qui aujourd'hui a à peu près 70 ans, a une face un peu christique, comme a dit l'un de mes collègues, avec des cheveux blancs, une barbe blanche.
Visage très émacié. Oui.
Très émacié. On pense qu'il ne fait pas vraiment la grande vie, mais... Et puis alors j'ai remarqué sur les vidéos que j'ai pu voir que c'est un homme qui ne porte pas de montre. Pendant des années où j'ai suivi, il n'a pas de montre, il a juste un petit bracelet en cuir, là. C'est un gris-gris. Et je sais, enfin, il a raconté qu'il est d'une famille très modeste et qu'à l'école il était un élève très très mauvais. il n'arrivait pas à lire et il dit même que ses parents aujourd'hui l'auraient emmené chez un psychologue parce que c'était quand même assez grave. Il arrivait juste à lire péniblement des bandes dessinées avec des feuilles cartonnées, enfin très très simples. Et puis vers l'âge de 12 ans, vous voyez que de 6 ans à 12 ans, il a juste appris à lire, mais et il a trouvé une bande dessinée qui illustrait un poème d'un très grand poète, et, écrivain, philosophe italien qui s'appelle Giacomo Leopardi. Et là, cet enfant complètement ignorant a été illuminé et ça l'a complètement débloqué, ce qui est quand même assez intéressant. Et il s'est mis à lire d'une façon gloutonne tout ce qui lui tombait sous la main. Il a fait des études, je suis après qu'il a été allé à Bergamo, et il a été élevé, il a dit, au séminaire. Je pense qu'il s'agissait du petit séminaire, mais ce qui peut expliquer quelquefois ses attitudes un petit peu chrétiennes qu'on sent assez souvent, comme « je suis venu pour disparaître », ce qui me fait penser à une parabole du Christ, en fait. Donc cet homme, pendant sa jeunesse, a fait tous les métiers, et vraiment tous les métiers. Il avait envie et besoin d'aller à pied. Il a fait des kilomètres à pied, Milan, Naples, il faisait ça à pied. Il a été dans les montagnes des Carpates, il a fait tout ça à pied. Ce qui peut expliquer aussi son besoin de solitude, cet amour qu'il a pour la montagne, cet intérêt qu'il a pour la nature, parce que nous n'aurons pas le temps probablement de vous citer de nombreux passages où la nature règne en rêve, règne vraiment dans son écrit, avec les animaux. Je pense que c'est la nature qui est prédominante dans ce livre, donc on vous en lira quelques passages. Et après, il a dû se marier et il a commencé à écrire en disant qu'il sentait le besoin d'écrire alors qu'il faisait peut-être le portefeuille, lavait la vaisselle. Et n'ayant pas beaucoup de place chez lui, il s'enfermait dans les toilettes avec une table sur les genoux pour écrire. Donc pour vous présenter ce personnage qui est un peu exceptionnel dans l'histoire de la littérature. Enfin, il y a eu des cas... Voilà, cet homme qui petit à petit a été connu, reconnu par des éditeurs importants. Donc quand il publie ce livre, La Petite Lumière, en 2013, il prétend qu'il l'a écrit par nécessité, que ça germait en lui, et que c'est un livre de 140 pages et qu'il l'a écrit en 14 jours à 10 pages par jour.
Donc, oui, voyez, tout à fait exceptionnel. Oui.
C'est exceptionnel.
Et alors, justement, tu parlais de la vie de Moresco, et c'est vrai que dans La Petite Lumière, au passage, on vous a parlé de son aspect philosophique, métaphysique, etc., mais c'est vraiment un livre dans lequel on entre très très facilement et qui est envoûtant. Enfin, en tout cas, moi, il m'a envoûté. Mais cet aspect autobiographique, on en trouve des traces dans le livre, parce que le deuxième héros de l'histoire, en plus du narrateur, est un petit garçon, et ce petit garçon est un petit garçon qui a toutes les caractéristiques d'un écolier des années 40-50, un tablier noir, le crâne rasé, un cartable qui se porte à bout de bras et non pas un sac à dos comme aujourd'hui, des culottes courtes,
des soquettes.
Du respect pour la discipline.
Oui, voilà, tout ça. Et on retrouve, et ce petit garçon est cancre à l'école. Il n'a qu'une seule, une seule discipline dans laquelle il excelle, c'est dans la cour de récréation, la bagarre à cheval. Alors le cheval étant un autre élève, et le plus jeune grimpe sur le dos du plus costaud, et le but est de faire tomber celui d'en face. Voilà. Et donc on pense que tout ça, quand même, est assez autobiographique. Et alors, ce qui nous a un peu fasciné dans le livre, c'est comment, si vous voulez, il va nous faire entrer dans dans le monde de cet enfant, pas à pas. Ce qui fait que quand on va avoir la révélation que cet enfant, en fait, est un enfant qui est mort, Eh bien, on ne sera pas étonné, on ne sera pas surpris. Il a su nous amener, il a su nous introduire dans cette espèce de mystère, dans voilà. ce silence. Et peut-être que, parce qu'elle aussi récemment vient de passer de l'autre côté de la vie, Marie Laforêt, on a eu envie de vous faire écouter une chanson qu'elle interprète et qui s'appelle « La voix du silence ». Et qui correspond un peu aussi à l'atmosphère de ce livre.
Autrefois je ne savais pas qu'il est des mots qu'on n'entend pas. Mais un soir une ombre est venue qui m'a dit écoute un peu plus. Une voix te parle en mots inconnus. La voix du silence. Je m'en suis allée promener. Les peupliers se sont penchés pour me raconter des histoires qu'ils étaient les seuls à savoir. Et le vent et la mer doucement. Chanter la voix du silence. Et depuis j'ai vu bien des gens qui jetaient des mots à tout vent et qui discouraient sans parler, qui entendaient sans écouter ou composaient des chants que nul voix n'a repris. La voix du silence. Les hommes ne voient plus les fleurs, ils en ont pris des rides au cœur. Ils espèrent en faisant du bruit meubler le vide de la vie. Et mes mots tombent sans un bruit en goutte de rosée étouffée. Comme la voix du silence. Toi tu dors à mon côté et je n'ose pas te parler de peur que mes mots se confondent avec le bruit que fait le monde. Mais je t'aime tant qu'un jour tu tu m'entendras crier les mots du silence.
Nous sommes sur CFM, au Cercle de lecture de Confluence, et nous débattons aujourd'hui du livre « La petite lumière » d'Antonio Moresco.
Alors, j'ai commencé à vous parler de ce livre et je vous ai dit qu'il y avait ce personnage seul, qui s'ennuyait, mais qui regardait, qui contemplait la montagne, et en face, il y avait une petite lumière. Et un jour, il a décidé d'aller vers cette petite lumière, et dans les chapitres qui se suivent, c'est très intéressant, on vous en parlera, il y a des chapitres où il y a de l'action, et des chapitres que j'appelle des silences distractifs, où on parle de la nature, de ses échanges avec les animaux, il parle beaucoup aux animaux, aux hirondelles, etc. Mais là, je vais vous conduire jusqu'à cette petite lumière qu'il finit par trouver. Et à l'intérieur, il voit une maison et il y voit un petit garçon de 10 ans à peu près, qui lui semble un peu bizarre parce que d'abord, il a la tête rasée, il a les culottes courtes, comme on vous a vu. Et il le voit, mais il n'entre pas dans cette maison. Et l'enfant ne lui dit pas d'entrer. La conversation entre ces deux personnages sera vraiment très brève, très laconique et juste l'essentiel. Donc il y a un échange qui se fait et il va retourner voir cet enfant à plusieurs reprises. et il s'informera dans son village pour savoir. L'enfant d'abord lui a dit qu'il allait à l'école du soir parce qu'il fait souvent ses devoirs, il fait à manger, lui aussi il lave le linge, nettoie ça. Il y a une similitude, vous comprendrez pourquoi après, entre les gestes, les activités de cet adulte et les activités de l'enfant. Donc, ils vont échanger et petit à petit, ils vont apprendre à se connaître, mais en restant le plus souvent très éloignés l'un de l'autre. Mais entre-temps, il y a les scènes quand il redescend et quand l'adulte découvre la ville et la nature et l'interpelle. Donc, je passe la parole à mes collègues qui vont parler.
On va dire deux mots du style. Hein. On a dit que ce livre... C'est toi, Jeannette, qui avait employé le mot. Il nous a enchanté, il nous a beaucoup plu, il nous a fasciné. C'est en grande partie en raison de son style. C'est vrai que la façon dont il parle de la nature, vous l'avez dit, Monique, des animaux, mais les descriptions de ce village, puisqu'il vit seul dans cette maison qui est décrite à plusieurs reprises, dans un village complètement désert. Il s'y promène aussi bien le jour que la nuit. Ce village a été abandonné, mais il y a des choses qui vivent encore. Par exemple, les lumignons sur les tombes. Alors, on ne sait pas comment fonctionnent ces lumignons. On ne sait pas si ce sont des bougies qui sont régulièrement changées et rallumées, ou si c'est une autre source de lumière. En tout cas, chaque fois qu'il passe devant le cimetière... Il y a des lumignons sur les tombes et ces lumignons sont...
Les morts se manifestent.
Oui, sans doute, les morts se manifestent.
Je précise qu'il y a un système électrique en Italie qui illumine les lumignons. Ce n'est pas des bougies, même dans
ces... Sans doute, mais là, ça n'est pas dit. On ne sait pas comment ça fonctionne. Ça nous intrigue un peu quand on lit ça. Ce village abandonné avec ses lumignons... qui éclaire le cimetière tous les soirs, c'est quand même un peu surprenant, quoi. Tout ça est décrit avec une économie de mots, mais avec beaucoup de justesse. Enfin, moi, j'ai été frappé par ces mots qui sonnent vrais, quoi, avec beaucoup d'économie dans la construction des phrases, dans le vocabulaire, mais en tout cas, ça sonne vrai. Et puis la façon dont est introduite le merveilleux. Cet enfant, il ne nous dit pas qu'il est mort. On le devine parce que l'enfant lui-même parle des vivants. Donc, les vivants sont des tiers, et donc par induction, on se dit qu'il n'en fait plus partie. De même qu'à un moment, il y a un autre personnage qui ne fait plus partie du monde des vivants, c'est le concierge de l'école.
L'école
du soir. Donc là aussi, par déduction, on se dit que ces personnages ne font plus partie du monde des vivants. C'est comme ça qu'est introduit le merveilleux, également par le fait que les animaux, ils parlent aux animaux, ils parlent aux oiseaux, et puis ce chien qu'il rencontre à un moment. Alors là aussi, il y a un apparentement avec le roman dont nous avons parlé le mois dernier, le chien, la neige, un pied. Et là aussi, il y a un chien, mais qui est beaucoup moins présent. Lui ne parle pas, mais c'est un chien blessé d'une façon très, très cruelle. C'est un chien d'attaque, un chien qui pourrait paraître redoutable, qui pourrait paraître effrayant. Mais ce chien a eu les pattes brisées. Il circule, il marche sur des moignons de pattes.
Et ça... Alors, aussi. Je précise que Moresco dit que dans sa vie, effectivement, il a vu, lorsqu'il était retiré dans une montagne, il a vu une petite lumière et il avait rencontré un chien blessé. Donc ce sont deux points de
ils
sa
sont,
vie.
J'ai oublié
de vous dire qu'il prétend qu'il écrit une fable, ce qui l'a évité de rentrer dans des détails... réaliste, parce qu'il dit qu'avec le réalisme, il aurait été obligé de décrire les sentiments des uns des autres, tandis que là, la fable lui permet d'aller à l'essentiel, à l'absolu.
On se disait que ça valait la peine de faire entendre la voix de Moresco dans une description en particulier.
Oui.
Françoise ?
Oui, et finalement, j'ai choisi le passage où il évoque des lys qui viennent d'être saccagés par la grêle. Quand j'ai pu sortir, tout était recouvert de tessons de glace. J'ai pris l'échelle et je suis montée sur le toit pour remettre les tuiles en place. J'ai marché un moment dans le hameau. Je me suis arrêtée pour regarder les fleurs pousser ça et là, à présent complètement dévastées et hachées, y compris les trois lys blancs qui fleurissent dans une vieille marmite pleine de terre qui se trouve devant un petit escalier de pierre et dont j'ai suivi anxieusement la floraison, m'arrêtant tous les jours pour regarder et humer leurs calices à peine ouverts. Ici, les lys fleurissent tard, en juin et non pas en mai, voire fin juin. Depuis quelques jours, leurs grandes tiges oscillaient sous le poids de leurs grands calices blancs, avec leurs pistils chargés de pollen jaune. Ils répandaient un parfum suave alentour, depuis que les premiers étuis avaient commencé à blanchir puis à s'ouvrir. À présent, ils sont là, en pièces, les calices massacrés, les tiges brisées, la poudre jaune des pollens coulant sur ce qui reste des fleurs blanches déchiquetées.
Et on se disait que ces lys brisés étaient peut-être métaphoriquement l'indice, enfin qu'il s'agit, qu'on réfléchit sur des enfances brisées. Dans une interview, Moresco fait allusion au fait que on a du mal à retrouver l'enfant que l'on a été, et que pour retrouver cet enfant qu'on a été, il faut quelquefois traverser des passages psychanalytiques, enfin, ou étudier avec un psychanalyste un peu sa mémoire, etc. Et dans ce livre, justement, constamment, on est amené à chercher. Tu parlais de fable, Monique, l'aspect métaphorique, l'aspect symbolique. Et ces enfances brisées, moi j'ai envie de vous lire un passage. Enfin, parce que cet enfant mort, on s'est dit que c'était peut-être un enfant dont l'enfance avait été saccagée. Et que cet enfant mort est un petit peu le porte-parole ou le symbole dans le monde de tous ces enfants qui sont massacrés ou qui sont empêchés d'étudier, enfin voilà.
Oui, d'autant qu'il dit, le petit dit, on m'a fait du mal, je me suis suicidé.
Je me suis tué, ouais, oui, on m'a je fait me du suis mal, tué. Je me suis tué.
On y reviendra peut-être tout à l'heure, parce que sur le dernier chapitre, sans dévoiler la fin, qui du point de vue stylistique est assez remarquable, j'en dirai un mot tout à l'heure. Ouais.
Je vous lis ce passage. « C'est quoi ce monde ?» je pensais, en regardant les enfants qui s'en allaient tout seuls dans le noir, avec leurs petites jambes nues, sous leurs petites blouses et avec leur cartable. Où est-ce que, quand tout le monde dort, il y a des enfants morts qui sortent en silence des écoles du soir, tout seuls, sans que personne ne le sache, sans que personne ne les voie. Ils n'ont personne qui les attend. Debout devant le portail, ils ne lèvent même pas leur regard dans le noir. De toute façon, ils savent pertinemment que personne ne les attend. Ils s'en vont tout seuls, qui sait où. Maintenant, cet enfant va traverser le village désert. Il va prendre cette petite route qui monte et arrive jusqu'au début de la crête, puis le chemin plus étroit envahi par la végétation et par les ronces qui grimpent au milieu de la forêt, en pleine nuit, dans le noir. Il va arriver jusqu'à sa petite maison. Il va allumer la petite lumière. Quelle peine ils font, les enfants morts, quand ils sortent comme ça des écoles plongées dans le noir, la nuit, tout seuls. Mais au fond, les enfants vivants ne font-ils pas autant de peine ? Et je ne sais pas si vous avez entendu, j'ai essayé de le faire sentir, le nombre de fois où l'adjectif « petit » est répété. Petit, ouais. Et on a eu cette impression qu'il y avait d'un côté le monde des humains, petit, petit devant l'univers, immense, et que de l'autre, en face, il y avait la nature immense et prédatrice.
Oui, et alors, simplement peut-être pour... Il me semble, moi, ce livre m'interroge beaucoup, je ne suis pas sûre de bien le comprendre, mais il m'a semblé qu'il y a des figures de cet enfant qui a été peut-être maltraité et dont l'enfance a été sacrifiée tout au long de l'histoire. Par exemple, les petits blaireaux qui regardent de leurs yeux écarquillés le narrateur qui vient sur leur route. Ou encore l'hélice saccagée par l'orage, ou bien aussi peut-être le chien dont les quatre pattes ont été brisées, et peut-être même le papillon à la fin dans les WC qui refuse de disparaître. Aussi. Voilà.
Mais je voudrais aussi insister sur le fait que chez Moresco, au moins dans ce livre, la nature est toute puissante. En fait, la nature ne s'occupe pas de l'homme. La nature est toujours en lutte pour survivre, et c'est elle qui aura le dessus sur l'homme. Et il parle du cycle de la nature qui doit germer, qui fait des efforts, qui demande de l'énergie. Les arbres sont étouffés par des lianes. Et puis après, il y a l'été, il y a l'automne, et ils doivent mourir pour renaître. Donc pour lui, la nature est cyclique, mais retrouve toujours son énergie première, enfin nécessaire pour assurer le cycle. Ça, c'est très puissant dans ce livre. Parce que quand vous parlez du lys brisé, c'est également la faiblesse de la nature, mais ça lui est égal. Elle sait qu'elle pourra repartir. Il suffit d'attendre le moment juste et elle repart. Mm-hmm. Ce qui n'est pas forcément vrai pour l'homme.
Ah, encore que, j'ai trouvé aussi qu'il y a dans ce roman une évocation de la force de vie, de la pulsion de vie, oui. De la reproduction. Oui. Les humains, la lutte des spermatozoïdes pour atteindre l'ovule, ou encore les lucioles qui émettent des petites lumières pour se reproduire. Et justement, Moresco s'interroge sur cette volonté de perpétuation de l'espèce au milieu de tout ce désespoir végétal et de ce froid. Pour quelle raison ? Voilà, pourquoi ?
Il souligne l'absurdité, mais aussi la nature grouille, mais pour un but qui confine à l'absurde, quoi.
Et alors on est toujours dans ce cycle vie-mort, Monique qui a pu interroger sur Moresco et sur les goûts de Moresco, nous a amené à découvrir un musicien. Écoutez, je vais essayer de vous lire son nom, Urmas Sisak, S-I-S-S-A-S-K. Un Estonien. Et si je prends la peine de vous l'épeler, c'est parce que vraiment c'était une découverte assez éblouissante. Et alors on a eu envie de vous faire écouter un passage de sa Esti Missa, sa messe estonienne, on suppose, qui est un passage de l'Agnus Dei.
Est-ce que je peux ajouter que c'est la musique qui accompagne le film qui a été tourné d'après le livre de Moresco, La Lucina, donc la petite lumière, où Moresco lui-même tient le rôle de l'adulte qui va à l'encontre de l'enfant. Donc c'est cette musique qui illustre tout le film.
Amen.
Alors nous sommes dans le cercle de lecture de Confluence et aujourd'hui nous parlons de La Petite Lumière d'Antonio Moresco. Alors on peut revenir d'un mot sur le style, et j'ai dit tout à l'heure que le dernier chapitre sur le plan stylistique était assez remarquable. Il y a permutation des narrateurs. Le narrateur de tous les chapitres précédents s'estompe et c'est l'enfant lui-même qui devient le narrateur du dernier chapitre. Ça nous éclaire d'ailleurs sur une des interprétations possibles, c'est que cet enfant qui ne fait plus partie du monde des vivants, ben c'est peut-être le narrateur lui-même. Hein. Le narrateur lui-même est sans doute Moresco lui-même.
L'enfant qu'il a été.
Oui, Moresco lui-même l'a dit dans une interview, il a dit que c'était lui-même enfant.
Voilà.
Donc il a dû être un enfant assez malheureux, j'imagine.
Sans doute, mais en tout cas, cette façon de nous le faire comprendre en parlant, en devenant le narrateur et en reprenant certaines scènes qui ont déjà été vécues dans les chapitres précédents, mais avec le point de vue de l'enfant.
Je voudrais aussi faire sentir à nos éditeurs que quand ils rencontrent cet enfant, ça ne l'étonne pas, en fait, et ça ne nous étonne pas de découvrir qu'il est mort. C'est l'enfant lui-même qui l'a dit. Il a même dit qu'il s'était suicidé parce qu'on lui avait fait du mal. Et chose étonnante, on rentre dans cette fable avec une certaine tranquillité.
C'est vrai,
on n'est pas du tout étonné.
C'est pas une histoire de zombie.
On suit l'auteur et son mouvement.
Cet enfant qui vit seul.
Qui vit seul, qui est petit, tout est petit autour de lui. Il a des petites jambes, des petites culottes, des petits pieds, des petites mains. Enfin, d'ailleurs, le titre, c'est La Petite Lumière. Tout est petit.
Ouais. Tout est petit et pourtant, il y a vraiment une dimension métaphysique qui nous a frappés. Et je crois, Françoise, que toi, tu avais envie de lire un passage où justement, on a cette interrogation de l'auteur sur ce monde, qu'est-ce qu'on fait dans ce monde.
C'est pascalien.
C'est très pascalien. On avait recherché pour vous la phrase de Pascal qui dit « Le silence éternel des espaces infinis m'effraie ». Et c'est vrai que le passage que tu vas lire, on a vraiment l'impression de voir cet enfant ou cet homme, ce narrateur, dans la nuit étoilée, face à ces mondes qui s'offrent aux yeux et devant lesquels on se sent tout petit.
Tout à fait.
Comment savoir si au-dessus du ciel, il y a un autre ciel ? Comment savoir si la courbure de l'espace et du temps, si courbure il y a, si espace il y a, si temps il y a, ne sont pas eux aussi à l'intérieur d'une courbure plus grande, d'un espace plus grand, un temps plus grand, qui vient avant, qui n'est pas encore venu. Comment savoir pourquoi ça s'est arrangé tout ça, comme ça, dans ce monde ? Est-ce que c'est comme ça partout ? S'il y a un partout, dans ce déchaînement de petites lumières qui percent le noir, dans cette nuit froide et dans l'obscurité la plus profonde. Oui, c'est un vertige.
Vraiment un vertige. Et en même temps, je ne sais pas si vous avez remarqué, donc c'est le narrateur adulte qui parle, et pourtant, dans sa façon de placer le sujet après le verbe, il y a quelque chose d'enfantin.
Oui, c'est vrai.
Dans sa façon de parler. Et justement, on retrouve, je trouve que sur le plan stylistique, c'est formidable. Quoi. Ça aussi, ça nous prépare au fait que ce narrateur redevienne cet enfant, voilà. Ou que cet enfant soit ce narrateur.
Le narrateur enfant.
Il faut aussi souligner
que... Il se donne la main à la fin.
La discussion entre le protagoniste et l'enfant est très très brève. Enfin, ça pourrait tenir sur une page. Ils se parlent très très peu et tous les beaux passages qu'on vous a lus, c'est le narrateur qui pense tout ça. Enfin, qui pense. Mais ils ne pensent jamais, ils ne réfléchissent pas. Enfin, ils posent des questions à l'enfant. L'enfant répond tout à fait sobrement, mais il n'y a pas d'échange philosophique entre eux. Hein, c'est...
Non.
Le questionnement est en dehors de ce rapport. C'est ça qui est très intéressant. C'est pendant qu'il va voir l'enfant, il a vu l'enfant, il réfléchit. Et ce questionnement sur la nature, sur ce que l'homme, la position de l'homme dans la nature, c'est en dehors de l'enfant. Je trouve que le rapport entre l'homme et l'enfant est très... très, très dénudée. Et à la fin, c'est l'enfant qui va poser, qui va répondre, et c'est l'homme qui va... Enfin, c'est l'enfant qui va poser des questions.
Mais justement, ce livre, donc, on l'a lu et on l'a relu, et au fur et à mesure qu'on le lisait, il nous enchantait davantage, et puis il nous posait toujours de plus en plus de questions. Vraiment, cet aspect fable, on essayait de le creuser, hein, on essayait vraiment de le creuser, et vraiment, c'est vrai que ce livre est 140 pages, et qui vous poursuivent.
Oui, simplement ce que je voulais dire, c'est vrai qu'il n'y a pas d'interrogation métaphysique entre les deux personnages. Il y a au contraire des gestes de la vie quotidienne qui sont très touchants. Par exemple, il y a une réciprocité, ils s'offrent des repas, ils font une cuisine, chacun cuisine pour l'autre. Et voilà, et ils montent un feu, ils le regardent prendre et ils le contemplent ensemble.
Alors on arrive peut-être au terme de cette émission. On a des annonces à vous faire, mais avant les annonces, je vais vous annoncer la dernière musique qu'on a eu envie de vous faire écouter. Tout à l'heure, on parlait de ce petit garçon ou de cet adulte qui était face à ce ciel étoilé de nuit, à la fois effrayant et majestueux. Et comme on sait que Moresco aime beaucoup l'opéra, enfin, entre autres Bellini, on vous fait écouter Casta Diva, un extrait de Norma, chanté par Montserrat Caballé.
Oui, mais avant, pour cette conclusion musicale, je voudrais vous dire ce que disait Moresco. J'avais besoin d'écrire un livre où je resterai dans le silence et dans l'obscurité pour m'approcher de l'absolu. Il faut parfois aller chercher l'absolu dans le noir et non dans la lumière.
Et alors cette Casta Diva, c'est la lune, évidemment, qui dans les premières phrases de que chante Montserrat Caballé, rend argentés ces bois antiques et mystérieux.
Thank you.
Nous terminons cette émission du Cercle de lecture de Confluence. Nous avons parlé de La Petite Lumière d'Antonio Moresco. Nous précisons qu'il est publié aux éditions Verdier, éditions Verdier qui seront invitées du Festival Lettres d'automne, qui va être inauguré demain, mardi 19, et qui durera jusqu'au dimanche 1er décembre. Pour terminer maintenant, une annonce, celle du prochain cercle de lecture qui se tiendra le mardi 14 janvier à 10h à la Petite Comédie, le local de Confluence. Et nous parlerons du livre de Toni Morrison, Beloved.
Voilà, on a choisi Toni Morrison parce qu'elle vient de disparaître récemment. Et alors, pour répondre à certaines demandes, je précise que ce cercle de lecture de Confluence est ouvert à tous. Hein, il suffit, retenez l'heure. De toute façon, on met des affiches devant le local de Confluence pour dire le jour, l'heure. Et donc, que vous ayez lu, c'est mieux, ou pas lu le texte, vous pouvez venir rencontrer et écouter ce qui se dit.